Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés, j'allais dire à l'Université de l'Épargne, pour un nouveau délit d'opinion, le premier de cette année 2026. J'espère que les vacances se sont bien passées, que vous avez eu un bon réveillon de Noël et un bon réveillon aussi du Nouvel An. Nous, on revient bien en forme pour parler d'un événement que j'avais pas vu venir. C'est ce qui s'est passé au Venezuela, évidemment, hein. Il n'y a pas trop de surprises avec l'enlèvement éclair du président Nicolas Maduro. Alors déjà, est-ce que c'était à prévoir ce truc?
Bah, si vous lisez mon dernier livre, c'était évident. Maintenant, on revient vers un retour des empires. Hein. Vous voyez revenir l'empire russe, l'empire turc, l'empire. Et là, bah, les États-Unis ont décidé que l'empire américain, ce serait l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, et qu'il fallait pas leur chercher des pots dans la tête, et que Maduro était en train d'installer une usine de drones à long terme qui pouvait d'origine iranienne. Sans doute financé par la Chine, et qui pouvait atteindre Miami, les drones en question. Donc, puis en plus, il y avait des. Ils avaient donné l'exploitation des métaux extrêmement rares qui existent au Venezuela à des Chinois. Donc, les Chinois risquaient de faire un double corner, en quelque sorte, et sur les métaux rares et sur les terres rares. Donc, ben les Américains ont fait savoir que l'Iran ni la Chine n'avaient rien à faire en Amérique latine, quoi. Boum.
Ouais. Et
Ça a
alors.
été fait de façon, si j'ose dire, assez élégante. On a enlevé le pantin de service, là, Monsieur Maduro, qui n'était. Il faut savoir que au Venezuela, il y a eu une véritable prise de contrôle du Venezuela par les élites cubaines. Hein. Et donc, si vous voulez, que le Venezuela, ça n'était que la continuation de Cuba, mais avec du pétrole. Mais vous savez, ce qu'on dit toujours, c'est que les socialistes, si vous les mettez à la tête du Sahara, au bout de 3 mois, il y a plus, ils doivent apporter du sable, quoi.
Ouais, alors
Ils ont réussi
effectivement.
à foutre en l'air l'industrie pétrolière vénézuélienne, alors que c'est les plus grosses réserves du monde, quoi.
Ouais, effectivement, c'est les plus grosses réserves du monde, 25%. De l'entièreté
C'est plus que
de la
l'Arabie Saoudite.
réserve. Voilà, c'est plus que l'Arabie Saoudite, c'est plus que n'importe quel pays. Et dans les années 70, c'était 3 millions de barils par jour. Donc là, c'était organisé par Texaco, Exxon, Chevron.
Le suspect habituel.
Voilà. Et ensuite, c'était nationalisé, donc sous Chavez. Alors, ils ont continué à avoir, dans un premier temps, une bonne production. Et puis, petit à petit, bon, bah, ça s'est étiolé. Ça s'est vraiment aggravé sous Maduro, qui a décidé de pas, comment dire, faire les investissements nécessaires, ne serait-ce que pour la maintenance, etc. Donc, l'essentiel de l'infrastructure pétrolière vénézuélienne est juste hors d'état. Il y a dans leur fameux lac, là où ils extraient énormément de pétrole, il y a 12 000 installations, il y en a 7 000 qui sont dysfonctionnelles ou tout simplement
Et
qui
ils
ne
en sont
fonctionnent
plus qu'à
plus du tout.
700 000 barils par jour, quoi.
Voilà. Donc maintenant, c'est une production, voilà, de l'ordre de
Marginal.
quelques centaines de
Mais qui est
milliers.
en principe quasiment tout acheté par la Chine. Les 700 000 barils partaient beaucoup en Chine. Et le pétrole vénézuélien a une caractéristique intéressante, c'est qu'il est très lourd.
Oui, tout à
C'est-à-dire que
fait.
pour le raffiner, il faut des raffineries un peu spéciales. Et que les raffineries qu'il y avait dans les Caraïbes ou au Texas étaient bâties pour le pétrole vénézuélien.
Tout à fait.
Donc, voilà, c'est aujourd'hui une partie importante du pétrole chinois, pas énorme, mais enfin un peu, les 700 000 plus que 1,5 million, je crois, qui arrivent d'Iran, ça vient d'Iran et de Venezuela. Et là, avec ce qui se passe en Iran et ce qui se passe au Venezuela, bah, la Chine doit se sentir un peu mal à l'aise. Pour ses importations de pétrole, parce que bon, elle peut le faire de l'Arabie Saoudite, mais c'est pas
Ouais.
aussi.
Mais est-ce qu'elle en a tant besoin de ça, de ces importations de pétrole?
Elle importe à peu près 11 millions de barils par jour.
Ouais.
Donc elle doit importer un paquet j'imagine, d'Arabie Saoudite et d'autres pays. Mais là, on lui enlève à peu près 2 millions de barils par jour qu'elle ne peut retrouver littéralement qu'en Russie.
Ouais.
Ça veut dire que elle devient plus dépendante de la Russie,
Ouais.
c'est-à-dire que ça doit
C'est un
pas les
modèle
aider.
moins résilient, ouais.
Ouais, c'est-à-dire que ça pourrait être leur plaire des masses, ça renforce la possibilité de négociation de la Russie par rapport à la
Oui,
Chine, quand même.
c'est clair. Et les États-Unis, eux aussi, est-ce qu'ils en ont besoin? Parce que ça, à
Non, pas
chaque
du
fois,
tout.
c'est ce que je vois revenir, c'est ils ont absolument besoin de ce pétrole.
Pas vrai du tout, ce sont les premiers producteurs mondiaux, ils sont
Ouais.
exportateurs nets
Ils sont
d'énergie.
exportateurs nets, ouais.
D'énergie, et puis si jamais les Canadiens cessent de faire des bêtises, ils ont tout le pétrole qui arrivera direct. Il y a un pipeline qui existe, mais que les Américains ont refusé d'ouvrir pour l'instant, je sais pas où, qui va vers l'Ontario, et là où il y a toutes les réserves de pétrole canadiennes. Donc, s'ils ouvrent ce truc-là, il y a 1 ou 2 millions de barils par jour qui arriveront directement
Ouais.
vers les États-Unis, donc ils n'ont absolument pas besoin de ça, quoi.
Ouais.
Non, mais simplement, ce que les États-Unis n'ont pas accepté, c'est le coût de la d'installer une usine de drones qui peut attaquer Miami.
Mmh.
Alors ça, faut pas déconner. C'est le même coût que
Ouais.
le coût
Que
de
Cuba,
Kennedy, de
ouais.
Cuba. Et puis, c'est dans le fond ce que dit les. Ce à quoi on est en train d'assister, sans vouloir porter de jugement de valeur qui servent à rien d'ailleurs. C'est au grand retour de la réelle politique bismarckienne, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire, on vous dit, bah, écoutez, les gars, si vous cessez de m'emmerder dans mon arrière-cour, je vais peut-être arrêter de vous emmerder dans votre arrière-cour, quoi. Et là, les Américains ont fait savoir de façon nette et précise à la Chine qu'elle n'avait rien à foutre ni au Venezuela, ni en.
Oui.
Bon, alors, on va voir les élections brésiliennes qui vont avoir lieu en octobre cette année, parce que le Brésil est à peu près le seul État qui peut en Amérique latine peut s'opposer aux
Ouais.
États-Unis, quoi.
D'ailleurs, c'est un fervent soutien Lula de Maduro,
Bah
hein.
oui, c'est tout le truc. C'est l'international socialiste, quoi.
Ouais, surtout en Amérique du Sud, ils sont très soudés, pays comme la Bolivie, etc. Et alors, effectivement, il y a eu beaucoup de jugements de valeur, que ce soit dans la presse ou chez les politiques le lendemain ou même le jour même. Alors, on a vu beaucoup de commentaires qui disaient globalement ce que j'ai vu le plus, c'est bon. Alors, effectivement, Maduro est un dictateur un peu sanguinaire, donc on est très content qu'il soit plus là. Mais le droit international, nanani, nanana. Et en fait, plus le temps passait, plus les heures passaient, moins il y avait mention justement de ce fameux droit international. C'est-à-dire qu'en fait, après quelques ans, on s'est dit, mais en fait,
Vous
bon.
savez, c'est ce que j'ai souvent dit ici, c'est que le droit international, c'est une vaste foutaise, parce qu'un droit, pour qu'il existe, il faut qu'il y ait des tribunaux, que ces tribunaux aient la capacité et la légitimité pour juger, et une fois que le jugement a été rendu, qu'il y ait des forces de police ou militaires qui mettent en place le jugement. Le droit. On a essayé de remplacer les droits nationaux par une espèce de droit fondé sur les droits de l'homme. Et aujourd'hui, on voit revenir la réelle politique de celle de Lord Palmerston ou de Bismarck qui disait les nations n'ont pas d'amis, elles n'ont que des intérêts. Eh ben, si vous voulez, on sort de toutes les bêtises d'Attali, si j'ose dire, et on revient à la dure réalité de la diplomatie. C'est ce que disait Theodore Roosevelt, qui a été un grand président américain. Il disait, la diplomatie, c'est pas difficile, il faut avoir une très grosse massue et parler tout doucement à l'oreille des gens. Eh ben, Trump, c'est l'héritier de Theodore Roosevelt. Il a tapé assez peu, parce que finalement, il y a assez peu de victimes, il a juste enlevé le type.
Effectivement,
C'est pas un changement de régime, hein, vous pouvez continuer comme avant. Mais il a tapé assez peu, et il parle doucement à l'oreille des gens, mais le message a été entendu très fort.
Ouais, et c'est une opération d'un point de vue technique qui est quand même extrêmement impressionnante. C'est une opération in and out de 88 minutes, apparemment. Donc avec quelques dizaines d'hélicoptères, des soldats au sol, aucune victime américaine, il y a eu deux soldats blessés seulement.
Ils
Et
ont dû fouler la cheville ou je sais pas.
voilà, c'est ça.
En
Je sais pas trop
sautant
ce
de
qui s'est passé.
l'hélicoptère.
Bon, alors évidemment, tout était prévu. Apparemment, il y a des agents de sécurité de Maduro qui étaient dans sa garde rapprochée, qui ont été déjà achetés en quelque sorte.
Oh, mais on sent très bien que ça s'est passé par une négociation entre
Voilà.
Maduro, enfin les équipes de Maduro et en disant les équipes de Maduro ont dit si on vous livre Maduro, Vous nous laissez tranquille. Et on ouais. Ils ont dit oui, et hop, et voilà, ça s'est
fait. Il y avait quand même, sa tête était mise à prix, 50 millions de dollars, auparavant c'était 15 millions, et on peut imaginer qu'il y a eu un deal du style, bon, donnez-nous des renseignements en tant qu'agent de sécurité de la garde rapprochée de Maduro sur ses habitudes, machin chose, et puis vous serez gentil, on intervient tel jour à telle heure, vous serez gentil de ne pas intervenir, et puis en échange, on vous donnera peut-être 250 000 dollars, et puis une petite maison
en Floride.
Floride, et puis tout se passera très bien pour vous. Donc
voilà. On voit bien qu'il y a eu une traînée. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand vous réfléchissez, que nous sortons de cette période imbécile qui a suivi la chute du mur de Berlin, où on a expliqué aux gens qu'à partir de maintenant, le monde allait être régi par le droit. Je ne prends pas un jugement de valeur, je dis que c'était idiot. Parce que le droit sans la force pour appliquer le droit, ça n'existe pas.
Oui.
C'est une illusion. C'est-à-dire que vous dites. Ils nous ont fait croire qu'il y avait quelque chose qui s'appelait le consensus international. Tout ça, c'est. Les États sont des monstres froids. C'est pas moi qui l'ai dit, je crois que c'est De Gaulle. Et un monstre froid, il doit défendre les intérêts de son pays. Alors, si vous réfléchissez, vous voyez. Le message qu'envoyaient les États-Unis, c'est très net. Dans notre zone, vous ne nous emmerdez pas. Message qu'avait déjà envoyé Poutine sur la zone russe. En disant, ouais. dans notre zone, vous ne nous emmerdez pas. Et donc, les Chinois, ils doivent se dire, bon, ben, dans notre zone, vous ne nous emmerdez pas, ça veut dire que vous cessez de me casser les pieds avec Taïwan.
Ouais.
Ça ne veut pas dire que je vais envahir Taïwan. Mais ça veut dire que vous cessez de lui vendre des armes, etc. On explique à Taïwan. De toute façon, il va y avoir des élections à Taïwan. Et le parti au pouvoir qui va arriver, celui qui restait d'être élu, est tout à fait partisan de ne pas proclamer l'indépendance de Taïwan. Vous savez, j'avais discuté avec le ministre des Affaires étrangères de Taïwan il y a 25 ou 30 ans, et je lui avais dit quels sont les deniers rouges que vous avez mis, que la Chine a mis à votre politique étrangère. Il me dit, il y en a deux. La première, c'est que si on devient un État nucléaire, avec une arme nucléaire, ils nous rentrent dedans tout de suite. Et la deuxième, c'est que si nous proclamons l'indépendance, ils nous rentrent dedans tout de suite. Mais sinon,
oui.
On se réunira un jour,
oui.
Dans le lointain. Donc on voit très bien émerger ces zones. Et il y a un autre élément qui est passionnant, qui s'est produit là, donc, qui n'est pas tellement celui-là, mais... En même temps, il y a une nouvelle qui est peut-être beaucoup plus importante que celle de qui est sortie, c'est que l'Arabie Saoudite détendait ses liens avec l'UAE,
ouais, avec les Émirats Arabes Unis.
Les Émirats Arabes Unis, pour se rapprocher de la Turquie. Mm-hmm. Alors là, il faut réfléchir un petit peu à ce que ça veut dire. Ça veut dire que si vous regardez une carte depuis la Turquie, comme ça vous partez, vous pouvez aller de la Turquie... Vous descendez vers le Liban, vous arrivez à Latakia, là. Puis vous passez à Alep, vous descendez vers Bagdad. Puis après, là c'est que des sunnites. Hein.
Oui.
Là, vous arrivez à une zone aux alentours de Bassora, qui est chiite. Et puis vous, ensuite, vous rentrez dans l'océan Indien et tout, et vous trouvez la Malaisie, l'Indonésie, qui sont des puissances aussi sunnites.
Oui.
Donc vous avez, en plus de cette énorme zone de Valérie Pieris, vous avez un deuxième couloir qui est en train de se créer, dans le fond, de croissance sunnite. Et l'Arabie Saoudite ne peut pas ne pas avoir un défenseur militaire, qui a toujours été les États-Unis. Mais comme oui. Les États-Unis, ils ont l'air de vouloir maintenant se concentrer sur l'Amérique et puis la forteresse américaine,
oui.
Ben vous vous dites, ça ne peut pas être un État chiite, donc ça ne peut pas être l'Iran, ça peut être que la Turquie.
Oui.
Donc vous avez maintenant la Réunion. La Turquie, c'est une industrie phénoménale qui est très belle, qui marche très bien. C'est une puissance, une armée considérable, une population jeune, 80 millions, je ne sais pas combien. Une armée très forte. Et maintenant, s'ils sont financés par cette caisse d'épargne qu'est l'Arabie Saoudite, vous avez la possibilité d'un développement du monde arabe monstrueux, sunnite. Et je crois que ce qui a rendu les Saoudiens fous, c'est le coup du 7 octobre que le Qatar avait monté avec les Palestiniens, les Iraniens, pour empêcher les accords d'Abraham.
Oui.
Donc ils se sont dit, bon, ben les Qatars... Alors je crois qu'honnêtement, Le Qatar, c'est des sales cons, mais les Bahreïn et le troisième, comment il s'appelle déjà, Abu Dhabi, à mon avis, ils reçoivent des coups, ils y sont pour rien. C'est pas leur truc, c'est pas de peau, ils étaient au mauvais endroit, quoi.
Ouais.
Mais ce qui est amusant, c'est ensuite de voir monsieur de Villepin pousser des cris sur le Qatar, alors que c'est le. Sur tout ça, alors qu'il n'est payé que par le Qatar, lui, c'est le seul client qu'il a dans son entreprise, donc je crois qu'il en touche, d'après les rumeurs, je ne sais pas si c'est vrai. Ça m'intéresse pas d'ailleurs, je crois qu'il est payé 4 millions d'euros par an par le Qatar, etc. Donc on voit monsieur Villepin sur la télévision hurler contre la prise de contrôle de ce pauvre Maduro.
Oui.
En disant que c'est un scandale et tout. Je me demande s'il n'y a pas des choses qu'on ne nous dit pas, là.
Oui, il y a certainement des intérêts personnels, oui.
Mais ouais, ce que je veux dire, c'est que maintenant, on voit monter cet énorme... Donc vous allez avoir l'Empire turc, qui va s'appuyer sur la fortune saoudienne, l'Empire russe, bon, l'Empire chinois, l'Empire indien qui revient, l'Empire sunnite de tout le monde musulman, qui va monter comme ça. Et nous ?
Oh, nous, on interdit de mettre du sel dans la rue, vous savez, pour empêcher la neige de fondre.
Ah oui, c'est comme les bleus, vous savez, comme toutes les bouteilles, ce qui m'énerve maintenant, les bouteilles d'eau, où il y a la capsule qu'on peut pas enlever.
Oui, ça c'est fondamental.
C'était un truc européen aussi, ça m'a toujours énervé, parce que du coup j'en fous partout. Enfin, oui. Donc ils s'occupent des problèmes importants, l'Europe.
Oui.
On sent que... Mais ce qui est effrayant, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a deux mesures que devraient prendre les pays européens. La première, c'est le contrôle de la Méditerranée par les flottes italiennes, françaises et grecques. Quoi. On doit arrêter les conneries. Maintenant, il faut qu'on empêche... Donc, il y a un accord entre ces trois pays qui n'ont rien à voir avec l'Europe et qui se passe tranquillement. Et le deuxième, il est urgent de refaire, si j'ose dire, l'Empire austro-hongrois, c'est-à-dire de permettre la réunification, enfin, un accord militaire entre la Pologne, la Hongrie... La Tchéquie, pour que c'était eux qui empêchaient les Turcs de passer. Je veux dire.
Oui,
faut le rappeler quand même. Hein. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, il faut laisser tomber toutes ces conneries de l'Europe, de la construction européenne. Il faut faire deux barrières, une sur la mer, une sur la terre, en disant aux Européens, on va aller aux Polonais, aux Tchèques et tout, allez, on va vous armer, vous allez. Mais qu'est-ce qu'on fait? On achète toutes les armes aux États-Unis et des avions dont on n'a que foutre. Tout le monde s'en fout des avions. Ce qu'il faut maintenant, c'est avoir des types au sol, quoi, qui peuvent crapahuter dans les montagnes.
Oui, puis même les avions, je sais pas si dans 20 ans, on achètera encore
des avions. Mais les avions, ils se font tous, vous descendre un avion de 250 millions de dollars, l'avion, par un drone qui coûte 3 millions de dollars.
Ouais.
C'est complètement foutu, les avions, c'est à peu près aussi inutile que les...
Ouais.
J'ai l'impression, quand on voit les Européens, d'un monde où ils sont dans une espèce de rêve.
Oui, puis là, vous voyez la nouvelle urgence, c'est défendre le Groenland.
Oui.
On va aller se battre au Groenland contre les Américains.
Alors, le Groenland, vous le regardez sur la carte, il y a, je crois, 250 000 personnes au Groenland.
Je crois que c'est même pas ça. Je crois que c'est encore moins que ça.
C'est moins que ça. Vous avez une spécialité de la diplomatie française qu'elle a défendue longtemps. C'était le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, vous dites aux Groenlandais, on va faire un grand référendum. Et on va voir si vous préférez rester accroché au Danemark ou si vous préférez devenir citoyen américain. Puis on leur pose la question, puis c'est à eux de décider. Mais aujourd'hui, l'espèce de machin qu'on a créé en Europe a décidé une fois pour toutes de l'inviolabilité éternelle des frontières. Mais s'il y a deux peuples qui ne peuvent pas se supporter, qui sont dans les mêmes frontières, je ne sais pas, comme les Tchèques et les Slovaques, ils sont séparés, ça emmerde personne, quoi. Donc... On a créé un monde de droit contraignant, mais sans aucun outil pour contraindre. Au moins les Soviets, ils envoyaient les tanks à Varsovie.
C'est sûr, ils avaient plus contraignants. Oui.
Ils avaient les moyens de la contrainte, mais nous, on explique non, sinon on va être très fâchés.
Ouais.
Vous savez, ça me rappelle c'est pas l'Union et Crouton là dans Astérix là. Vous savez, le petit qui allait retenir sa respiration jusqu'à ce qu'on fasse ce qu'il voulait, quoi. Il devenait tout rouge.
Ouais.
Nous, on retient notre respiration, mais on va être très fâché. Tout le monde dit, mais on n'a rien à foutre que vous soyez fâché. Vous, si vous voulez pas respirer, vous allez vous faire cuire en neuf, quoi. On est à un niveau de compréhension politique en Europe qui dépasse le ridicule.
Et alors, vous dites, l'Arabie Saoudite se tourne vers la Turquie.
C'est énorme comme mouvement.
La Turquie qui est en plus de ça c'est plutôt bien placée parce que c'est une puissance d'équilibre sur le plan géographique et aussi sur le plan diplomatique parce que c'est un peu entre les États-Unis et la Chine. Ça fait quand même partie de l'OTAN, bon, avec
Je sais pas si longtemps, va durer longtemps.
Voilà, je sais bien, mais disons que à l'heure actuelle, c'est le cas. Alors avec quelques tensions avec les pays européens et qui se tournent aussi un peu vers l'est, vers la Chine, vers la Russie, tout ça.
Concrètement, la Turquie n'a plus de besoins financiers parce qu'elle est financée par l'Arabie Saoudite. À ce moment-là, ça devient une puissance formidable.
Oui, bien sûr.
C'est absolument gigantesque. Ça en vient. Vous savez, moi, je suis né en Syrie. Dans ma famille, j'ai toujours entendu parler de l'armée turque. C'est une armée. C'était des soldats absolument incroyables. Et je peux vous raconter une anecdote. Je ne sais pas si elle est vraie, mais c'est celle qu'on m'a racontée quand j'étais enfant. Quand la guerre de Corée s'est terminée, il y a eu un échange de prisonniers. On a rendu les prisonniers turcs. Parce que la Corée se battait aussi avec la Turquie. Il y avait des contingents turcs pendant la guerre de Corée. Alors les Turcs ont pris leurs contingents, ils les ont emmenés sur un bateau, ils ont coulé le bateau. Parce qu'un soldat turc ne se rend pas. Un prisonnier turc,
ouais, d'accord.
Ça n'existe pas.
Ouais.
Je ne sais pas si c'est vrai. Mais je peux vous dire que le soldat turc, c'était quelqu'un qui foutait une trouille bleue à tout le Moyen-Orient, quoi. Donc, que l'Arabie Saoudite, qui avait été dominée par les Turcs, fasse revenir dans le jeu diplomatique la Turquie, ça veut dire que l'Arabie Saoudite se dit « Je ne suis pas capable de me défendre. Mon armée est... » Bon, ils n'ont même pas réussi à vaincre les Yéménites, là. Donc, il faut que j'aie quelqu'un de militaire sur lequel m'appuyer. Ça ne peut plus être les États-Unis. Ça ne peut donc être... Ça ne peut pas être un pays chrétien comme la Russie, donc ça ne peut être que la Turquie qui a ils ont fait des accords déjà avec le Pakistan, qui a l'arme atomique. Donc ils ont d'un côté la Turquie, l'armée classique, de l'autre côté le Pakistan, l'arme atomique. Et on voit très bien le bousculement qui va se passer. Ça veut dire que cet immense corridor qui part comme ça, qui va de la Méditerranée jusqu'à l'Indonésie, là. Mais là aussi, il va se passer des trucs. Hein.
Ouais.
Ça va se réseauter, si j'ose dire. Il va falloir, si vous voulez, créer des aéroports, des trucs. Donc, on a deux. Ce qui veut dire que les années qui viennent vont être des années de croissance inouïe dans le monde, pas chez nous.
Oui, bah là, c'est pas parti pour,
C'est pas parti pour.
Ça pourrait, mais c'est pas parti pour.
C'est pas parti pour. Mais par contre, Air Liquide, Schneider, ils vont cartonner comme des fous, quoi.
Ouais. Oui, c'est pareil. D'ailleurs, apparemment, j'ai vu le tweet d'Emmanuel Macron par rapport à la fameuse opération d'enlèvement de Maduro, et je m'attendais justement à ce que, comme tout le reste de la classe politique, Macron fasse du « oui, mais l'état de droit, le droit international, etc. » Et en fait, non, il n'en a pas parlé, et je me suis posé la question, tout simplement parce qu'il existe des liens politiques entre les grandes entreprises et les politiques, je me suis demandé si c'était pas une manière de réclamer une petite place pour Total au Venezuela aussi. Total qui a les technologies d'ailleurs pour raffiner
quand
ce pétrole.
Je crois que l'Union soviétique, c'est ce que j'ai dit ce matin, mais je crois que l'Union soviétique avait envahi, c'était Budapest, je crois. C'était il y a longtemps. Il y avait un ministre des Affaires étrangères, je me demande si c'était pas Cheysson, je sais plus, qui avait dit quand les chars russes étaient rentrés à Budapest, de toute façon, nous ne ferons rien. Bien entendu, de toute façon, nous ne ferons rien. Ce qu'a dit Macron, c'est une forme de poli de dire « bien entendu, nous ne ferons rien ».
Oui, c'est pas faux.
C'est pas faux, mais je suis surpris de cet accès d'intelligence et cet âne batté.
Oui.
Je me dis, si quelqu'un d'autre a dû lui dire que vous ne pouvez pas... mais que ce quelqu'un d'autre a automatiquement les moyens de contrôler la parole de notre président, donc ça ne peut être que l'ambassade américaine. En lui disant, on n'aimerait pas du tout que vous fassiez des remarques désagréables.
Oui, c'est pas impossible. Hein. D'ailleurs, l'ambassade américaine se situe à 100 mètres de l'Élysée, donc...
Oui, et puis ils ont des grandes oreilles aussi, ils ont les écoutes, et puis ils savent peut-être des choses sur Macron, qui ont des moyens de pression, j'en sais rien. C'était déjà le cas avec Mitterrand, mais... Donc, on est en train d'assister en temps réel à l'écroulement du rêve mondialiste. Vous savez qu'on allait vers les globalistes, le mondialisme, la mondialisation heureuse et tout. On assiste en fait au grand retour des empires.
Alors certains analystes ont dit, regardez, Trump il s'est fait élire sur la promesse d'un non-interventionnisme, en tout cas d'un isolationnisme, et là regardez, bah, il intervient un coup en Iran, un coup au Venezuela, est-ce que finalement Trump ne revient pas, ou enfin change d'avis, ou rechange d'avis par rapport à
oui, à mais vous remarquerez cette politique-là. Qu'il ne met jamais... de boots on the ground, oui. Vous savez, c'est-à-dire qu'il n'envoie pas deux troupes, il envoie des avions, des fusées, des troupes d'élite, mais les troupes d'élite, elles sont arrivées, elles ont capturé le gars, elles vont le faire juger, elles sont parties, et c'est un peu ce qu'on avait fait avec nos... Comment il s'appelait, Nogueira, le Panaméen qui, Bush le père, avait piqué pour... Ils avaient fait la même chose
possible. Il y a 20 ans, 25 ans.
Ouais. Donc... les États-Unis disent, encore une fois, c'est pas une question de morale et tout, ça me fatigue. C'est une question de réel politique. L'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, y compris le Canada et le Groenland, ça fait partie du territoire de forteresse américaine. Mmh. Donc, quiconque intervient dans ces territoires, il va avoir des problèmes avec nous. Mmh. Et il y en a un qui pourrait avoir des problèmes assez rapidement, c'est Zelensky. Parce que si vous cherchez un gars qui a fait du trafic d'armes, du trafic de drogue, qui n'a pas élu et qui a fait tuer des tas de gens, Zelensky pourrait se faire enlever par les troupes d'élite américaine et être jugé. Ce qui serait un peu embêtant, quoi.
Oui.
Non, mais je marre, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'entre Zelensky et Maduro... c'est à peu près le même genre d'individu, quoi.
Oh, quand même pas, je trouve là, vous allez peut-être un petit peu loin. C'est pas la même nature. Alors après, je suis pas un immense défenseur de Zelensky, hein. Mais,
Si vous voulez, la moitié des armes ont été vendues sur les marchés libres, et l'argent est parti on sait pas où. Il a piqué, je sais pas combien de dizaines de milliards de dollars.
Enfin, c'est certainement un mec très corrompu, à titre personnel, hein.
Bien sûr. Oui, et puis, enfin, je sais pas. Mais je veux dire, si vous cherchez un gars qui est pas élu, qui n'a pas été élu depuis qu'il a fait un an et demi, qu'il est au pouvoir alors qu'il n'est plus élu. Bon, ben voilà, c'est un type qui n'est pas élu et qui est un peu douteux. Peut-être les Russes pourraient l'enlever, tiens.
Ah bah, ils ont essayé, ils avaient essayé au début. Hein,
là, j'ai vu que Zelensky avait essayé de tuer Poutine. Là. Il avait essayé d'envoyer des drones pour sa résidence.
Ah oui, bon.
Donc, à mon avis, il n'y a pas d'amour partagé entre les deux.
Non, je pense pas, effectivement. Non, mais les Russes avaient tenté de... C'était une opération en fin février 2022, au tout début de la guerre, ils avaient tenté de le choper. Au final, ils avaient pas réussi. Mais, ouais.
Mais si on commence à choper les types du pays d'en face avec qui on n'est pas d'accord, il va falloir renforcer l'Élysée, hein, parce que...
Oui.
Moi, il y en a des gens qui aimeraient ça. Même en France, tiens.
Oui, j'ai
vu des gars qui disaient « Il y a Macron, vous pouvez pas le prendre aussi ».
L'oubliez pas, celui-là.
L'oubliez pas.
Je savais pas qu'on pouvait faire ça, en fait, mais c'est une super
c'est
idée.
Ça, ça peut donner des idées, je sais pas, à madame, comment elle s'appelle, l'italienne, la madame.
Mélanie, oui.
Mélanie, elle pourrait dire.
Oui, c'est
non, mais c'est une bonne façon de régler les problèmes internationaux.
Oui, bien sûr. Non, mais en plus de ça, alors derrière, faut dire que pour la question du Venezuela, il y a un petit peu de flou parce que les États-Unis, enfin, Trump a dit dans sa conférence de presse ensuite à Mar-a-Lago, on va gérer la situation en attendant une transition, machin chose. Sous-entendant, en fait, il veut qu'il y ait un président issu de l'opposition.
Qu'il y ait des élections.
Alors ça, c'est déjà...
Mais le vrai problème des élections, c'est comme il y a 8 ou 9 millions de Vénézuéliens qui sont échappés de leur pays tellement c'était la misère noire, comme toujours avec des pays socialistes et communistes d'ailleurs. Et donc, ils sont en Bolivie, ils sont au Pérou, ils sont partout. Et il faudrait que ces gars-là puissent voter.
Mmh.
Aujourd'hui, si vous faites des élections, il ne reste plus que les crétins. Qui votait pour parce qu'il s'était...
Ah, cela dit, même dans ces conditions-là, c'était quand ? C'était pas l'été dernier, peut-être
c'était juste, hein,
l'été d'avant.
Mais s'il n'y avait pas eu des fraudes, il passait pas. Hein.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est passé avec un peu plus de 50%, et selon l'opposition, alors c'est pas un résultat officiel, donc je sais pas ce qu'il vaut, mais selon l'opposition, c'était leur candidat qui avait gagné avec entre 60 et 70% des voix.
Donc, ouais,
mais... jusqu'à
c'est ce que disait Staline, qui était... Un remarquable démocrate, il disait ce qui compte, c'est pas que dans une élection, c'est la seule chose qui compte, c'est qui compte les voix.
Oui.
Et je crois que Maduro, Monsieur Mélenchon, il avait très bien compris que Maduro savait compter les voix.
Oui, il avait une astuce.
Donc c'était ça faisait partie des hommes qu'il est. Parce que si Monsieur Mélenchon était élu, je suis sûr que celui qui compte les voix, ça deviendrait beaucoup plus important que les voix elles-mêmes, quoi.
Oui, c'est sûr.
Je crois qu'il n'y a pas de souci à se faire là-dessus.
D'ailleurs, il avait déjà été accusé d'avoir trafiqué l'élection de 2018, il me semble.
Oui, bien sûr.
Qui avait d'ailleurs déjà...
Il y avait eu plein de morts à l'époque.
Il y avait eu plein de morts à l'époque, plein de blessés. Il y avait eu du coup la déclaration de Juan Guaido, qui était le président de l'Assemblée nationale, puisque ça faisait déjà depuis 2014.
Oui, qui était parti de l'autre côté.
Voilà. Depuis 2014 déjà, l'Assemblée nationale, elle avait basculé de l'autre côté. Du côté opposition, Maduro avait dit « si c'est comme ça, je m'en fous de l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale n'a aucun pouvoir ». Donc du coup, déjà première vague de manifestations, il y en avait eu encore 4 ans après, Guaido a dit...
Il y a eu le Cour suprême qui était parti du...
Voilà.
C'est marrant, comme tous les gens de gauche sont toujours attachés au droit, etc., sauf quand il s'agit d'un des leurs, parce que là, la Cour suprême avait été contre Maduro, l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, etc., et Maduro était considéré comme un héros. Mais il faut bien se rendre compte que le Venezuela était un pays qui avait littéralement été capturé par Cuba. C'est-à-dire que les élites de Cuba géraient un petit peu le Venezuela. Quoi. Ouais. Donc c'est la même. Donc
Chavez avait une adoration pour
Castro.
Pour Castro, absolument. D'ailleurs, il est mort là-bas à Cuba.
En essayant de se faire soigner par des médecins cubains, ce qui était peut-être pas une bonne idée.
Ouais.
Et donc ça veut dire aussi que si le Venezuela tombe, s'il y a des élections, si etc., Cuba risque de tomber.
C'est une possibilité. Ça peut créer un mouvement d'embrasement.
Vous voyez ce qui se passe en Iran, c'est que.
Ouais, complètement. Ils se disent, si ça se fait là-bas, peut-être que ça peut se faire ici.
Peut-être que ça peut. Puis quand les gens n'ont plus rien à bouffer, plus rien à perdre, qu'il n'y a plus d'eau, qu'il n'y a plus rien, ils finissent par se dire, ça va bien.
Oui, tout à fait.
Donc, on voit bien. Alors là, si je réfléchis en termes d'empire. Vous aviez toujours eu, dans le fond, dans le Moyen-Orient, la Turquie, mettons Constantinople, Byzance, ou ce que vous voulez, la Grèce avant, qui était là avant, et qui se heurtait à l'Empire perse, vous savez, qui était de l'autre côté. Ça fait 5000 ans qu'on se met sur la gueule entre les Perses et les Grecs. Donc, et là, on voit bien que dans ce nouveau. L'Empire perse, là, avec les Mollahs, là, est très affaibli, parce qu'il a pris 2 ou 3 défaites avec la perte du Liban, du Hezbollah, du Hamas, etc. Oui. Enfin, il a perdu toutes ses troupes de pied, quoi. Il n'y a plus personne. Donc, on va se trouver dans une situation curieuse. Au Moyen-Orient, il y aura l'Empire de Constantinople, l'Empire turc sur l'Asie mineure, et son rival de toujours qui faisait l'équilibre, qui était l'Empire perse, qui va être très diminué. Donc, ça crée en soi des possibilités de glissement, de changement, de rupture, des tas de choses.
Bien sûr.
C'est...
Bien sûr, parce qu'on voit dans les rues, d'ailleurs pas que de Téhéran, mais dans d'autres villes aussi, d'ailleurs ce qui est révélateur, puisque on pouvait croire autrefois que ça pouvait être peut-être éventuellement juste la bourgeoisie de Téhéran qui était contre le régime, alors que le reste du pays, pas du tout. Là, on voit que vraiment, il y a sur l'ensemble du pays, ça se révolte, et que les forces de l'ordre ont de plus en plus de mal à justement retenir les manifestants.
Oui, c'est très intéressant, parce que le vrai moment de vérité en Iran, ça va se passer, vous avez l'armée, et vous avez les gardiens de la révolution, qui sont les SS locaux, je veux dire, qui sont très puissants, etc. Donc, si vraiment ça part en dig-dig, ce qui me paraît probable, mais je suis pas sûr, vous risquez d'avoir l'armée qui va essayer de se payer les gardiens de la révolution. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire un coup. Parce que l'Iran a toujours été gouverné par ce qu'on appelait le bazar, c'est-à-dire les milieux d'affaires, l'armée et le pouvoir central.
Oui.
Mais le pouvoir central avait créé une espèce de truc aujourd'hui qui n'existait pas avant, mais c'est une puissance politique, militaire, économique, les gardiens de la révolution. Donc, quelque part, vous avez, je sais pas, un quart de la population, j'en sais rien, qui sont dans ces gardiens de la Révolution et qui doivent être liquidés par l'armée.
Ouais.
Ça veut dire qu'on n'a pas fini de rigoler, quoi.
Non, non, c'est sûr. C'est sûr, on peut
Ouais,
imaginer.
quand 2026 commence bien, hein.
Ah oui, c'est sûr, ça commence sur les chapeaux de roue. Ouais, la semaine dernière, je me suis dit, bon, bah, sur quoi on va attaquer cette émission de la rentrée? Je me suis dit, peut-être on va parler de la Chine. J'avais lu un numéro du Point, d'ailleurs, qui était plutôt sympathique sur la Chine. Je me suis dit, peut-être on va faire un petit truc comme ça sur la Chine. Et puis là, l'autre, il décide de juste enlever un chef d'État étranger. Je me dis, bon, bah, écoutez,
Non
on va faire
seulement il
là-dessus.
le fait enlever, mais il le fait ensuite juger par des tribunaux américains.
Oui.
C'est-à-dire qu'on retrouve encore une fois cette extraterritorialisation du droit américain.
Oui.
C'est-à-dire que vous avez fait quelque chose que nous, les Américains, on trouve pas bien, donc vous allez être jugé non pas par un tribunal
Ça,
international, la Cour de la Haye, mais
c'est
par...
la, c'est le véritable droit international, c'est le droit américain. C'est
Ben, vous savez, on arrive à une période, encore une fois, de... qui me rappelle de vieux souvenirs, c'est tout le 19e, où on disait « Might is right », la force fait le droit. C'est pas particulièrement joli comme formule, mais on revient dans une période où la force fait le droit.
Oui.
Si vous n'avez pas de force, vous n'avez pas de droit.
Oui.
Non?
Bah oui, je suis d'accord, oui, bien sûr. Bah,
À partir du moment où la France, si vous voulez, n'a plus de frontières, n'a plus d'armée, n'a plus de police, n'a plus de législation, n'est plus souverain ni dans aucun domaine, ben, elle a plus de droits.
Oui.
Elle a plus de moyens de faire respecter son droit.
Oui. Bien
La
sûr, bah,
devise de l'Angleterre, c'est Dieu est mon droit.
mais bien sûr, tous ceux qui
En
parlent de droit
français d'ailleurs.
international par rapport à ce qui s'est passé sur cette opération Absolute Resolve, qui va enquêter sur les États-Unis, quel tribunal, qui va faire quoi, c'est quoi la procédure
Mais déjà, les États-Unis ont dit que s'il y avait des enquêtes qui étaient faites par le tribunal de La Haye sur ce qu'ils faisaient, parce
Ouais.
qu'ils n'ont pas signataire, hein,
Oui, absolument.
ben à ce moment-là, si vous voulez, ils prendraient sur eux d'arrêter les juges et de les faire juger aux États-Unis pour avoir outrepassé la souveraineté américaine. Ils n'ont
Ouais.
pas le droit de
Ouais.
juger des choses qui se passent faites sous les ordres du gouvernement américain. Vous pouvez
Ouais.
trouver que c'est très mal, hein, mais la réalité, c'est que... Un État normal ne peut pas accepter que des gens qui ont fait des opérations comme celle d'Absolute Resolve, là, soient jugés par des gens à l'extérieur qui n'ont rien à voir avec le schmilblick, quoi.
Ouais.
C'est même pas
Ouais.
envisageable.
Et puis bon, la vérité, c'est que même chez ceux qui disent à part chez l'extrême gauche, typiquement les Mélenchomanes qui sont vraiment pour le coup
Il
fans de
pleurait hier,
Macron,
Mélenchon.
ouais, voilà.
Il était, je l'ai vu à la télévision, il pleurait.
Mais d'ailleurs,
C'est un grand sensible, cet homme.
il avait fait un discours aussi pour la mort de Chavez. Il était parti dans un délire en solo sur Chavez. C'est aussi un de ses grands hommes. Et à part ceux-là. Même tous ceux qui parlent de droit international, etc., sont quand même bien arrangés, je trouve. Ils sont bien contents qu'on soit occupé de Maduro.
Ils sont bien contents, mais ce que ça veut dire, encore une fois, c'est que leur histoire de droit international, ça n'a plus de raison d'être.
Oui.
Il ne faut plus parler de droit international, ça
Oui.
n'existe pas.
Ça n'existe pas, et d'ailleurs, ça n'a à peu près jamais existé, en fait. Hein.
Jamais.
Parce que je veux dire, même dans l'imaginaire collectif de ah, post-guerre froide, là, ça y est, on a le droit international, etc. Bah, pas vraiment. Je veux dire,
Ben,
bah,
nous,
les États-Unis,
on
ils ont
s'est
fait plein de
permis de
trucs illégaux.
bombarder la Serbie pendant 71 jours de suite, je crois.
Ouais.
On a libéré le Kosovo qu'on a
Mmh.
séparé de la Serbie sans demander l'avis de personne, alors que c'était le centre
Ouais.
historique de la Serbie.
Il y a
Donc, on a fait
l'intervention en Irak.
l'opération en Irak, des millions de morts, je sais
Bon,
pas quoi.
je sais pas
Donc,
si c'est très respectueux du droit international, tout ça, bon.
non, mais c'était... Donc, encore une fois, si vous voulez, on nous a raconté des calembredaines.
Ouais.
Et le but essentiel, c'était de démasculer chaque nation pour qu'elle ne puisse plus se... Et maintenant, ben,
Il y
on
a
va
certaines
revenir.
nations qui ont accepté de se faire émasculer par
Ben,
ça.
la France.
Oui. Cocorico.
La France, cocorico, on a été les meilleurs. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec des gens comme, ben, maintenant, des monstres froids, comme les États russes, chinois, qui vont défendre les intérêts russes et chinois. Ce qui est quand même scandaleux, quand même. Qu'est-ce qui permet à ces États de défendre les intérêts de leur population sans se préoccuper des autres?
Je sais pas, je pense que c'est très hostile au droit international en tout cas.
On peut te marrer. C'est vrai. Mais je veux dire, avoir des États qui défendent les intérêts des étrangers par préférence à leurs nationaux, faut être arrivé à un niveau de sottise.
Ah oui, il faut avoir de l'imagination, mais on en a, on a de la ressource. Par rapport à cela. Alors, on avait dit tout à l'heure, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Alors, on a
Et
déjà.
encore une fois, quand on dit ça, c'est pas un jugement de valeur, c'est simplement l'histoire des relations internationales depuis 20 siècles, ou depuis 40 siècles, depuis qu'ils existent, quoi. La réalité, c'est qu'il y a des intérêts qui doivent être défendus, et que si vous mettez une morale, etc., ben ça va plus du tout, quoi.
Ouais. Et alors, du coup, on a déjà un petit peu traité la question tout à l'heure, mais il y a plusieurs motifs, plusieurs raisons qui peuvent expliquer cette opération, en dehors de simplement le fait que Maduro ait une sale tête et que Trump
Ah
aime
non,
pas sa
c'est des gros,
moustache.
ça n'a rien à voir avec Maduro, à mon avis, c'était simplement pour bien que le monde entier comprenne que les États-Unis veulent pas qu'on intervienne dans leur zone. Point
Voilà.
barre.
Ouais.
Et
Donc
que qui.
avant, donc en fait, avant tout symbolique presque,
C'est presque
plus
symbolique,
que
c'est-à-dire, à
devant la
partir
raison.
de maintenant, boum,
Ouais.
cette zone qui va du Groenland jusqu'à la Terre de Feu, c'est nous qui réglons ça.
Ouais.
C'est la doctrine Monroe, c'est-à-dire que quiconque vient sera en conflit avec
C'est
l'État américain.
effectivement, il a invoqué cette doctrine Monroe dans sa conférence de presse. Alors pour rappeler aux gens, c'est quoi la doctrine Monroe?
Ben, la doctrine Monroe, c'était un des, je crois, un des diplomates américains, je crois, qui avait dit que tout ce qui était Amérique du Nord, Amérique du Sud, c'était s'il y avait un conflit, c'était les États-Unis qui étaient en charge de le régler.
Ouais.
Personne n'avait le droit, ni d'Europe, ni d'Asie, de venir se mêler de ce qui se passait en Amérique du Nord et en Amérique du
Ouais.
Sud. Et d'ailleurs, Donald Trump a dit que ça allait être transformé dans la doctrine Donroe.
Oui.
Ce qui est assez marrant, c'est-à-dire, voilà. Donc, il a simplement fait savoir, de façon nette, claire et précise, à la Chine, vous essayez d'envoyer des armes, des munitions, d'acheter du pétrole à ces gars-là, parce que vous allez avoir un os.
Ouais. Et alors, il a dit, Donald Trump, que Cuba devrait se méfier.
Ben, il a dit que Cuba allait sauter.
Ouais.
Mais
Que.
je le sais, parce que j'ai des amis cubains qui sont inscrits à l'université d'Épargne, d'ailleurs, que je salue aujourd'hui. Un ami qui est un ingénieur et français d'ailleurs, mais enfin d'origine cubaine, qui a son père qui vit à Cuba et qui a 20 euros par mois pour vivre. De
Ah ouais,
retraite.
c'est pas mal ça.
De retraite, donc il est obligé de payer pour son père à Cuba, parce qu'il me dit
Ouais.
l'état de misère de Cuba, c'est
Ouais.
absolument inimaginable.
Ouais.
Pas d'électricité, pas de ça, enfin bref, c'est effrayant, quoi.
Ouais. Et il y a d'autres pays aussi qui peuvent être visés par les États-Unis. Parce que, bon, le motif initial qui est évoqué par Donald Trump, qui est à mon avis pas complètement faux, mais qui est pas le motif principal, c'est le fait que ce soit quand même un gros lieu de passage du narcotrafic. En ce moment, bon,
Oui,
il y a.
c'était la Colombie, mais en même temps, la Colombie va commencer à faire gaffe. Mais
Ah oui.
il faut dire aussi autre chose, si vous voulez, c'est que là, ce qui fait beaucoup de mal aux États-Unis, c'est le fentanyl, qui
Oui,
est une
tout à
drogue
fait.
chimique. J'ai vu les gars qui étaient à Vancouver ou à San Francisco qui se marchent comme ça. C'est effrayant. Coupé en deux, c'est effrayant. Et la plupart des principes chimiques du fentanyl sont fabriqués en Chine. Donc, on retrouve beaucoup de fentanyl aux
Sorte de
États-Unis.
guerre de l'opium inversée.
Voilà, parce qu'ils ont des longues mémoires, les Chinois.
Ouais.
Et donc, Trump leur dit peut-être, écoutez, c'est bien joli, mais faut peut-être que vous commenciez à arrêter un petit peu de nous enfiler un peu trop de fentanyl, quoi. Parce que la cocaïne, c'est pas méchant, hein, faut pas déconner. Enfin, j'ai déjà compris, je sais pas ce que c'est, mais la cocaïne, ça vous transporte pas en zombie qui mourrait par terre,
Non,
quoi.
c'est pas tout à fait pareil. Ouais, je saurais pas expliquer enfin quels sont les effets directs du fentanyl. Effectivement, on voit les gens qui sont complètement addicts, qui sont coupés en deux. Et le fentanyl est un dérivé de la cocaïne, mais je sais pas quels sont les effets directs. Et j'ai vu un extrait d'une interview de Alex Karp, qui est le PDG de Palantir. Et je trouvais que ce qu'il disait était assez vrai, c'est-à-dire que il y a 60 000 personnes par an, il semblerait, aux États-Unis, qui meurent chaque année à cause du fentanyl. Alors, c'est pour la plupart des gens issus plutôt des classes populaires. Et Alex Karp disait, mais si c'était des gens issus des grandes universités, mais on enverrait immédiatement une bombe atomique sur le pays qui serait responsable de ce genre de truc, quoi. Donc, c'est clairement. Enfin, c'est totalement légitime de vouloir s'attaquer au plus haut niveau, même diplomatique, à ce
Et
problème-là.
donc là, vous avez la Colombie, maintenant, ils viennent d'avoir des élections qui sont plutôt à droite, etc. Donc,
il y a le
c'est une
Chili aussi
façon,
qui vient de
le
basculer à
Chili,
droite.
Le Chili qui va être l'Argentine.
L'Argentine, bah,
Donc
oui.
le grand bloc, ça va être le Brésil. C'est
Ouais,
vraiment,
ça
si le
va être
Brésil
intéressant.
bascule à ce moment-là,
Effectivement, c'est intéressant parce que le Brésil, c'est un pays qui est depuis presque 10 ans et un peu à chaque fois sur un point de bascule politique, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Et là, ça a été un petit peu violent la dernière fois quand Bolsonaro est
Et surtout que
sorti.
les élections étaient
Oui, il y a eu des suspicions
de
de trucage. Alors,
Minas Gerais.
voilà, moi, j'étais pas là, je peux pas
Moi, je peux jouer
savoir.
moi non plus.
Mais effectivement, au départ, je me souviens parce qu'on en avait parlé dans ces émissions. Les sondages donnaient Bolsonaro très très bas et au final, il a fait un score à quasiment 50%.
Et enfin,
Et Lula
50%, et
n'était pas
avec
beaucoup au-dessus.
un score massif vers dans le Minas Gerais, là-bas,
Ouais.
dans le sud, où il n'y a pas beaucoup de gens qui vérifient ce qu'on met dans les boîtes, quoi.
Ouais.
Donc, là aussi, et puis là aussi, on retrouve la Cour suprême avec un juge en particulier, je ne sais plus son nom, qui voulait imposer le droit, donc qui a mis Bolsonaro en prison et ses enfants aussi. Enfin, bref. Là aussi, il y a une dispute entre les juges et les électeurs, si vous
Ouais, bien
voulez.
sûr.
Donc, bref, le mondialisme a fait des dégâts au Brésil aussi, quoi.
Ouais, mais d'ailleurs, même Lula, avant, avait fait de la prison, il en est
Voilà,
revenu,
là,
etc.
on
Donc,
est.
peut-être que finalement, ils aiment bien lire des gens qui sont passés par la prison, parce que c'est peut-être bon signe pour eux,
Oh,
un
bah, c'est
politicien qui
comme
fait de la prison.
avoir un casier judiciaire, c'est ce que je dis toujours, c'est nécessaire pour être conseil constitutionnel en France, hein, sinon vous pouvez pas.
Oui. Alors, oui.
Alors,
Chez
si
nous,
vous êtes
vous
un
êtes.
gendarme, vous pouvez avoir un casier judiciaire, mais un casier judiciaire pour être un conseil constitutionnel, aucun problème.
Ouais. Alors en revanche, je suis pas sûr qu'ils auraient été élus par la population si on
Ah
leur en
non, ça n'a rien à voir,
avait.
mais
Mais
élu, mais vous savez que l'élection, ça ne confère aucun privilège. La seule chose qui compte, c'est est-ce que vous êtes dans l'esprit du temps.
oui.
Être élu, c'est-à-dire qu'avoir à quel mépris on traite le populisme. Le populisme, c'est que ça vient du peuple. Donc tout ce qui vient du
Oui,
peuple,
donc ça sent un
peut-être
peu
que
sale, ouais.
c'est un peu sale, ça sent des pieds,
Ouais.
ça a des dessous de bras pas
C'est
propres, enfin.
potentiellement dangereux et contraire aux valeurs de la République.
Ah oui, tout à
Et
fait.
d'ailleurs, parfois au droit international aussi.
Oui, tout à
Toujours.
fait. Au droit de l'homme, au droit de l'homme, au droit de l'homme.
Effectivement. Donc pour vous, la drogue, c'est vraiment un motif totalement secondaire, totalement au second plan pour cette
C'est-à-dire
intervention.
aussi, c'est que si les États-Unis, la grosse partie de la drogue vient soit des Caraïbes, soit d'Amérique latine, si une grosse partie de la drogue vient des Caraïbes et de l'Amérique latine, Trump va dire que, écoutez, ça va bien votre histoire de drogue, mais maintenant, si vous avez un président qui favorise la drogue, je peux venir le chercher et le juger aux États-Unis.
Ouais.
Donc ça va déjà limiter terriblement l'enthousiasme des gens.
Parce qu'il y avait eu des polémiques là pendant des mois parce que justement l'armée américaine visait des bateaux qui sortaient parfois justement du Venezuela de
Mais
trafiquants.
c'est une bonne question, c'est est-ce que si un bateau est identifié au trafic de drogue ou un avion, est-ce que quand il se rapproche du territoire des États-Unis, vous avez le droit de le descendre?
Ouais.
C'est une bonne question, mais
Ouais. Bah, en tout cas, pour
on
Trump,
pose la question si
la réponse est oui.
pour Trump, la réponse est oui.
Et...
Mais c'est nouveau.
Oui. Ah oui, bien sûr, c'est nouveau. Bah, bien sûr, tout le monde gueule en disant oui, mais peut-être c'est des familles, etc. Bon, il y a trois mecs armés avec un bateau qui a quatre moteurs. Peut-être faut pas me la faire non plus.
200 km à l'heure
C'est un
sur la
drôle de
mer.
famille tout de même.
Non mais voyez, toute cette espèce de truc de on pense sans arrêt à protéger les assassins mais jamais les victimes, il y a peut-être un léger renversement qui
Ah
est en
mais il y a
train de se passer aux
complètement
États-Unis.
un renversement. Et pour rester encore une fois sur l'Amérique latine, ce qui s'est passé, enfin ce qui se passe au Salvador depuis quelques années, c'est fondamental. Et d'ailleurs, c'est le président du Salvador aime beaucoup cette phrase, la tendresse envers le loup n'est que la pitié envers le loup n'est que la cruauté envers l'agneau. Et oui, on observe totalement ce renversement. Il y a eu ce
Et
moment
la
vraiment
question, c'est est-ce que
gauchiste
ça
en
va arriver au
Amérique.
Mexique?
Ouais,
Parce que le Mexique, c'est quand
bonne
même un
question
pays. Moi,
ça.
j'ai été au Mexique, j'ai beaucoup aimé ce pays parce que c'est un vrai pays. C'est pas un faux pays. C'est un pays qui a des cultures, qui a des traditions. J'étais très intéressé par le Mexique quand j'y suis allé. Et je me suis dit, mais ils ont cette espèce d'état dans l'état de ces organisations criminelles
Ouais.
et là aussi, il faut les liquider, quoi. C'est pas parce
Ça,
que
je pense que au Mexique, c'est tellement C'est tellement énorme, les cartels. Je pense qu'il n'y a que les États-Unis qui peuvent s'en occuper.
Mais c'est ce que les États-Unis ont essayé de faire savoir, mais que les Mexicains n'étaient pas tout à fait d'accord pour que les Américains s'occupent de leur cartel. Parce que quand les Américains s'occupent du Mexique, en général, ils s'occupent du Mexique fort bien, mais ils en prennent la moitié, quoi. avec la Californie, avec le Texas.
Et puis il y a plein de gens qui sont aussi dans un entre-deux, c'est-à-dire que effectivement il y a une grosse restriction de liberté à cause des cartels, etc. Mais aussi les cartels mettent les gens dans un état de dépendance. Ils versent aussi de l'argent dans les favelas, etc. Du coup, en même temps, vous êtes plafonné parce que vous pouvez rien faire dans un pays qui n'est pas libre. Et en même temps, vous êtes quand même un petit peu aidé par cette criminalité. Du coup,
c'est comme le Hamas. Ou le Hezbollah qui faisait tous les services sociaux dans les
bien sûr.
Au Liban bien sûr, et tout, ce qui fait que les gens ils se disaient j'ai pas d'autres services sociaux, donc au moins j'ai cela, quoi. Donc là, on est en train d'assister à une clarification extraordinairement rapide et à un effondrement de ce qu'on pourrait appeler l'éthos, le logos dominant depuis la chute du mur de Berlin.
Oui.
C'est-à-dire que cette espèce de logos la tendresse humaine coulait à flot, on allait tous être gentils et tout, est en train de s'effondrer de façon grotesque.
Ouais.
Et moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle parce qu'on vive la réalité.
Oui, vive la réalité. Effectivement, on n'a pas l'impression que Trump mente déjà quand il annonce ses motifs. Alors, il peut donner des motifs réels, mais un peu secondaires, comme justement le trafic de drogue. J'en sais rien. Mais déjà, il aime bien annoncer ce qu'il fait et puis il n'a pas de raison de mentir sur ses motivations réelles.
Le jour où je sais pas qui sera le prochain président des États-Unis, mais si c'est Vance,
oui.
Vous pouvez être certain qu'alors la forteresse America, ça sera puissance 10. Hein.
Oui, oui, oui.
C'est Trump, il a encore quelques vagues votes d'intention internationale, mais là, le discours de Vance à Munich.
Oui, Vance est moins interventionniste encore que Trump.
C'est-à-dire que vraiment, la forteresse America, et puis si vous commencez, le truc qui m'a aussi, qui a été pour moi un choc culturel incroyable, c'est le truc de Thierry Breton.
Oui.
Qui n'a pas de visa aux États-Unis, mais c'est comme si, je sais pas, Laval n'avait pas été reçu par Hitler, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est, vous vous dites, mais enfin, ce type, il a toujours trahi, il a obéi aux ordres qu'on lui a donnés, il a toujours fait tout ce qu'il fallait, il a abandonné son pays, il a ruiné les sociétés, enfin, il a fait tout bien, quoi. Et on lui donne pas de visa pour aller visiter le pays dominant. Il est quand même au board, au conseil d'administration de la Banque of America.
Oui, c'est vrai.
Et donc, si vous voulez, ne pas donner un visa à un gars qui est au conseil d'administration de la Banque of America, c'est vraiment renvoyer un laquais.
Ouais.
C'est un laquais que vous avez renvoyé. Donc, quand vous voyez pas donner de visa à Thierry Breton, piquer Maduro.
Oui.
Vous voyez les pièces, vous les mettez les unes à côté des autres et vous dites, ça veut dire que les États-Unis disent, je suis maître chez moi dans cette area, dans cette zone, et puis le reste du monde, je m'en fous.
Ouais, effectivement, depuis quelques dizaines d'années, à chaque fois, les États-Unis devaient se donner un bon vernis pour intervenir à droite à gauche, il fallait donner des bonnes raisons morales. Là, on n'a plus vraiment besoin de raisons morales, et d'ailleurs, la nature des interventions change complètement. C'est pour ça que moi, je suis en désaccord avec ceux qui disent, vous voyez, finalement, c'est le retour des néoconservateurs, etc. C'est quand même pas la même chose, l'intervention en Irak, l'intervention en Afghanistan, on reste pendant 10 ans à rien faire, à essayer de faire de l'éducation au genre à la population afghane. Là, c'est opération in and out, on reste 1h20, pas plus, et puis on repart. Et ensuite, vous gérez votre bordel de votre
côté.
Mais
par contre, si vous continuez les conneries, le prochain, on l'attrapera aussi, on ira le juger aux États-Unis. C'est-à-dire que vous censez de rendre une population responsable et vous dites, si le prochain chef d'État ne se conduit pas bien, nous, les États-Unis, dans notre zone, on a le droit de le piquer et de le juger. Ça va faire réfléchir des tas de gens. Hein.
Ouais. Et puis, c'est beaucoup moins coûteux aussi, parce que...
C'est beaucoup moins coûteux.
L'Afghanistan, ça a coûté. Hein. C'était quand même...
L'Afghanistan, l'Irak, ça a coûté un maximum. C'était monstrueux, quoi. Donc, ce à quoi on assiste, donc encore une fois, c'est le retour de la grande histoire.
Ouais.
L'histoire n'est pas finie. C'est pas la fin de l'histoire, c'est pas la victoire de Kant, c'est le grand retour des nations, des empires, et si je devais être parfaitement brutale, je dirais, de la guerre.
Oui.
Parce que la guerre, ça n'est qu'une forme, c'est ce que disait Clausewitz, je crois, que la guerre, que ça n'est que de la diplomatie sous une autre forme. Ben les États-Unis sont en train de montrer que dans cette lutte diplomatique, s'il faut prendre des mesures militaires fortes, ils les prennent. Mmh. Ils sont pas retenus par je ne sais quel. Donc on se retrouve dans un monde, mais je ne sais pas que je le souhaite ou que je ne le souhaite pas, ça m'est, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais il est évident que on retourne dans un monde incertain et dur, qui est exactement le contraire de celui qu'essayait de traiter l'Europe.
Oui.
Et donc aujourd'hui, tout le monde se retrouve, dans le fond, sachant à peu près ce qu'ils veulent faire et où ils sont, sauf l'Europe, on n'a pas la moindre idée de ce qu'il faut faire, ni de qui est notre vrai chef, quoi.
Oui, effectivement, on entre complètement à reculons dans ce monde-là, oui. Ouais.
On ne comprend rien. On ne comprend rien, si vous voulez. Par exemple, voir un homme, quand même, qui a eu des responsabilités, comme Villepin, dire qu'il faut envisager de faire une guerre au Groenland. Bon, d'abord, c'est complètement con. Et ensuite, toute l'Europe achète ses armes aux États-Unis.
Oui.
Non, mais il faut être complètement...
Oui.
Nous, on a peut-être quelqu'un encore fabricant d'avions ou d'obus qui pourrait... On a encore vaguement une armée, une industrie de défense. Mais la Hollande, l'Allemagne et tout, ils achètent toutes leurs armes aux États-Unis. Donc, on va faire une guerre aux gars
oui,
qui nous vend les armes.
Oui, c'est faire la guerre avec ses... en quelque sorte, avec ses amis ou ses alliés. Dire, bon... Je te mets une droite, mais t'inquiète pas, c'est pas méchant, quoi.
Oui, mais encore pour mettre la droite, faut avoir des gants de boxe. Si le seul fabricant de gants de boxe est aux États-Unis et qu'on achète des gants de boxe chez eux, on va pas aller loin.
Ouais.
Donc, si vous voulez, cette espèce d'irréalisme, on vit dans une espèce de brouillard intellectuel en Europe depuis 30 ans, et toutes les hypothèses fondatrices de ce brouillard sont en train de s'écrouler.
Ouais. Hein, mais clairement ils savent plus où donner de la tête et bah, ça va être intéressant à mon avis, on va devoir traiter le sujet dans quelques temps puisque Trump a dit qu'il allait s'occuper de la question du Groenland d'ici 2 mois.
Mm-hmm.
Voilà, en plus de ça il annonce la couleur, il dit à quel moment ça va se passer, il dit bon voilà dans à peu près 2 mois on va avoir j'imagine
mais vous regardez dans cette hypothèse de la forteresse américaine, vous regardez le continent asiatique qui est là.
Ouais.
Qui est immense, vous savez. Et puis vous avez la Russie qui contrôle toute la face nord. Donc les bateaux russes avec les brise-glaces nucléaires peuvent passer comme ça au nord de la Russie sans que les flottes américaines, etc., puissent les intercepter. Puisque, bon. Et puis elles débouchent là du côté de la Norvège ou par là, ou du côté de l'Islande.
Ouais.
Et le seul masse de terre qui est là pour voir ce qui se passe, c'est le Groenland. Donc, si vous voulez vous protéger en tant qu'Amérique contre l'arrivée des bateaux russes qui passeraient par le nord, vous ne pouvez pas ne pas avoir le Groenland comme truc militaire. Vous pouvez pas.
Ouais.
C'est complètement idiot.
Et donc, selon vous, quel doit être justement l'attitude
de les Américains vont dire on va organiser des élections au Groenland pour savoir s'ils veulent devenir Américains ou pas, quoi.
Ouais.
Et puis, il y a 250 Esquimaux là, qui vont décider s'ils préfèrent être Esquimaux américains ou Esquimaux danois, quoi, je sais pas.
Il y en a qui disent qu'ils veulent être Esquimaux tout court, ni danois, ni américains, mais alors ça va être compliqué pour tout ce qui est alimentaire.
D'abord, c'est très grand, le Groenland, et puis Esquimaux tout court, oui, mais leur niveau de vie va pas être terrible. Hein.
Non.
Parce qu'aux États-Unis, on pourra leur donner quelques bourses pour Harvard, je sais pas.
Oui, ça, au moins, c'est pratique. Il me semblait qu'il y avait un plan de l'administration de Trump, justement, qui imaginait le fait de faire un chèque, tout simplement, aux habitants du Groenland, c'est-à-dire que leur donner 100 000 dollars par personne, ça représenterait quasiment rien pour les États-Unis. Et voilà.
Ben, il faut pas oublier que les États-Unis ont acheté toute la Louisiane à la France.
Mm-hmm.
Et la Louisiane, ça partait de ça, de la New Orleans, et ça allait jusqu'à Chicago. Donc, c'était absolument énorme. Et puis, ils ont acheté l'Alaska aux Russes.
Oui.
Ils pourraient peut-être acheter la Groenland au Danemark. Quoi.
Oui, bien sûr. À mon avis, ça leur ferait pas de mal aux Danois, parce qu'en plus de ça, eux-mêmes n'exploitent pas vraiment le Groenland, ils savent pas quoi en faire. Donc, je sais pas à quoi ça leur sert. Ça peut leur servir à le vendre, peut-être.
Pour mettre les Palestiniens là-bas.
Je sais pas s'ils vont apprécier le climat. Je sais pas si c'est un cadeau.
C'était une idée, quoi.
Non, pourquoi pas, mais je sais pas s'ils vont...
C'est des bêtises. Faut pas faire de plaisanterie sur des sujets comme ça, mais il y a des moments où je peux pas me retenir. Mais je veux dire, c'est tellement évident que... On revient à ce que j'ai déjà dit, mais... Might is right. La force fait le droit.
La force fait le droit, oui.
Et que tous ces discours sur... les droits de l'homme et tout, ça prend un effet vif. On a l'impression qu'on a des gars du radical socialiste de 1930 qui s'élèvent contre le fait que...
Ah non, mais ils parlent dans le vide.
Surtout avec Brimo qui ne veulent plus rien dire.
Et on a davantage l'impression qu'ils parlent finalement pour se faire bien voir de leurs semblables. Dans tout ce monde un peu décadent, se dire bon, au moins on est décadent, mais on est ensemble, on est d'accord, plutôt que d'essayer d'avoir vraiment des mots qui ont une prise sur la réalité. Parce que très
et
franchement,
puis de décrire la réalité. La réalité, c'est le grand retour des empires. Donc, pour l'Europe, c'est assez simple. Vous avez l'Empire turc, qui a toujours été un danger pas possible, et il y avait l'Empire russe qui nous a protégés, puis l'Empire austro-hongrois. Et puis la flotte italienne, espagnole, française, etc., qui a vaincu les Turcs à Lépante, et ben il y a rien de nouveau, quoi. Donc il faut protéger la Méditerranée, du moins de notre côté à nous. Et donc il faut le faire vite.
Absolument. Je crois qu'on peut conclure cette émission là-dessus. Might is right.
Might is right. C'est et ça n'est pas un jugement de valeur de notre part. C'est juste dire ce qu'est la réalité aujourd'hui.
Voilà, absolument. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Encore une fois, je vous souhaite une belle année 2026. Évidemment, comme l'année 2025.
On va pas s'ennuyer.
Ça
part très fort.
J'espère pas. Comme Trump est toujours là, au moins on sait qu'il va se passer des trucs.
Trump, c'est la mauvaise nouvelle. C'est la meilleure nouvelle pour les journaux.
C'est sûr.
Les journaux, les magazines, s'il y avait pas Trump, ils seraient tous en faillite.
C'est sûr, on s'emmerdait un peu plus quand il y avait Biden. Il y avait beaucoup moins de trucs à dire. Et je vous dis, du coup, à la semaine prochaine pour un nouveau Daily d'opinion.
Merci beaucoup.